France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La BBC, la radio télé publique allemande, la RAI, les médias publics hongrois, lituaniens, les Suisses, aussi le service public évidemment en France, sous le feu des critiques, un mouvement de fond européen qui entend redéfinir financement et fonction des services publics de l'audiovisuel. Nous y venons tout de suite. Les avoirs russes au cœur du Conseil européen, pourquoi la Russie a peur, fait peur à l'Europe aussi. Devant les tribunaux, ce sera le monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage est en Écosse, dans un hôtel des Highlands, incroyable endroit rempli d'œuvres d'art.
C'est unique à cet hôtel. La plupart de ces œuvres sont normalement vues dans des musées ou des galeries. Mais ici, on peut profiter de l'art sans la contrainte et le cadre d'un musée.
Un reportage étonnant de Thomas Arms que vous découvrirez autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Auda a trouvé un ours polaire qui adopte un autre ours polaire. Ça parle de comportements sociaux étonnants. Et puis juste avant 19h, Stéphane Jourdain a déniché des lunettes connectées qui déshabillent votre identité en un rien de temps. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
They actually have me speaking with words that I never said, and they got caught because I believe somebody at BBC said this is so bad.
Ils m'ont fait dire des choses que je n'ai jamais dites et ils se sont fait prendre parce que je pense que quelqu'un à la BBC a dit c'est tellement grave qu'il faut le signaler. C'est Donald Trump qui parle évidemment et qui réclame, vous le savez, 10 milliards de dollars à la BBC pour un discours tronqué dans un reportage, un coup dur pour la Bib qui n'avait pas besoin de ça. Bonsoir Alexis Lévrier.
Bonsoir.
Vous êtes historien des médias, maître de conférence à l'université de Reims. On va pas faire un inventaire à l'après-vert, mais on reviendra sur quelques cas. La BBC, donc, qui est vraiment dans la tourmente, les Allemands qui entendent fusionner, simplifier leur audiovisuel public, la Suisse passée tout près de la correctionnelle très récemment, il y a quelques mois, et qui a un gros plan de restructuration devant elle, la France bien sûr, sa commission d'enquête en cours, la RAI en Italie, la Lituanie et ses budgets, la Hongrie qui a été avalée d'une certaine façon sa télé publique par Orban. On est quand même entré dans une... Oula, pardon, je suis en train de faire du bruit de micro. On est entré dans une autre ère quand on parle des médias publics aujourd'hui, une vraie autre ère en fait, non ?
Oui, et je crois qu'on ne peut la comprendre que si on l'inscrit dans un combat plus global, une bataille culturelle, civilisationnelle même, qui engage la survie des démocraties. L'existence d'un audiovisuel public indépendant, correctement financé, bien installé sur les territoires, est un des éléments qui constitue la démocratie. C'est pas le seul, bien sûr, mais ça fait partie des éléments qui le structurent. Et il n'est pas anodin que dans toutes les démocraties libérales aujourd'hui, et les attaques sont souvent en sous-main, on vient d'entendre Donald Trump, mais il y a aussi la Russie, qui agissent et qui portent en sous-main ou de manière plus officielle les partis d'extrême droite dans leur volonté de démanteler l'audiovisuel public. Souvent on dit au départ qu'on va le privatiser, puis après on le transforme en outil de propagande.
Parce qu'effectivement l'idéologie puis il y a le financement, on balayera les deux. Est-ce que justement la tendance est à affaiblir ou à prendre en main? Parce qu'on a l'impression quand on les regarde tous que c'est chacun sa méthode. La Lituanie est en train de geler les budgets. Quand on gèle les budgets, on ne peut plus travailler. L'Italie de la RAI a placé des hommes. La Hongrie, très grossièrement, en fait un outil de pouvoir. À chacun sa méthode en ce moment.
En fait, je pense que c'est surtout des degrés. En fait, entre le stade de la démocratie qui n'est jamais parfaite, mais qui disons équilibrée, et puis l'illibéralisme, comme on le vit en Hongrie avec Orban, comme essaye de le mettre en place Trump aux États-Unis. Là, on en arrive à une reprise en main totale de l'audiovisuel public. Et ce qu'on voit quand même dans ces pays-là, c'est qu'on ne privatise pas, on affaiblit, on commence par des coupes budgétaires, on place des gens, et puis on en fait un outil de propagande servi. C'est ce qu'a fait Orban depuis 2011 et ce qu'essayent de faire beaucoup de dirigeants en Europe une fois qu'ils sont au pouvoir ou en créant les conditions de cette mise au pas une fois qu'ils seront au pouvoir. C'est ce qu'essayent de faire aujourd'hui l'extrême droite en France, mais la même chose se passe à peu près partout en Europe.
Est-ce qu'il y a, Alexis Lévrier, puisque on parlait d'une autre ère, puisque le paysage audiovisuel aujourd'hui est particulièrement éclaté, est-ce qu'il y a de toute façon une remise en cause générale de principe du mode de financement, quoi qu'il en soit, des radios, des télés publiques? Je ne regarde pas, donc je ne paye pas. Est-ce qu'il y a aussi derrière cette idéologie que vous décrivez, un changement de paradigme, y compris chez les gens qui regardent et qui écoutent?
Oui, mais ils ne se rendent peut-être pas compte que cet argent qu'on met dans l'audiovisuel public, c'est la condition de notre liberté. C'est dans un moment où il y a une concentration des médias partout dans le monde et qui se fait souvent aux mains d'acteurs privés qui sont soit ralliés à l'extrême droite, soit compatibles avec elle, hein, ce qu'on a vu aux États-Unis avec l'arrivée au pouvoir de Trump, et bien l'existence d'un audiovisuel public, c'est la garantie du pluralisme pour chacun d'entre nous. Et effectivement, il y a un affaiblissement de cette acceptation.
Et je suis totalement d'accord avec vous, c'est pas moi qui vous le dirai le contraire, mais dans l'opinion aujourd'hui, quelque chose qui parle aussi, et on l'entend partout, baisser les impôts est quand même très populaire. Ça veut dire que personne, de toute façon, ne s'oppose à une baisse d'impôts, ce qui fait baisser les redevances. Et ça, c'est quand même une petite musique qu'on entend partout, avec y compris, du coup, un service public qu'on défend moins. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que face aux attaques, on le défend peu?
Mais c'est bien ce que je reproche aux démocraties et aux dirigeants. Vous parliez de l'Allemagne, on peut parler de l'exemple de la Lituanie que vous évoquiez également, de l'exemple anglais, et puis de l'exemple français. C'est-à-dire que l'affaiblissement de l'audiovisuel public qui commence avant l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et en fait, on crée les conditions de cette arrivée lorsque, comme l'a fait Emmanuel Macron en France, mais comme on le fait aujourd'hui en Allemagne, comme on s'apprête à le faire en Angleterre, on coupe dans les budgets, on regroupe, mais en fait, on fait perdre la singularité de ces médias, et on risque de casser le lien qui existe et qui est ancien. Pour la BBC, c'est plus d'un siècle. Pour l'Allemagne, c'est dans l'immédiat après la Deuxième Guerre mondiale, et c'était vraiment une des conditions de la restructuration du pays. Et ces audiovisuels publics, ils résistent là-bas un peu mieux que chez nous, puisqu'il y a une redevance.
C'est ce que j'allais dire. Qui a conservé une redevance, en fait, aujourd'hui, et donc s'en sort mieux? Parce que, autant que je sache, le Royaume-Uni en a toujours, une redevance. Et quand même pas très en forme.
Non, mais le combat de l'extrême droite pour prendre la main sur la BBC sera long, parce que la BBC, c'est sans doute de tous les audiovisuels publics en Europe, voire dans le monde, l'un des plus solides. C'est une composante de la culture britannique, et il y a un attachement très fort à cette indépendance-là. On est dans une dynamique, effectivement, d'affaiblissement de la BBC. Il y a eu des erreurs réelles.
Typiquement, là, ce que dénonce Trump, c'était à la base une connerie, même, disons les choses clairement.
C'est même une manipulation. Tout à fait. Il faut bien avoir en tête que les journalistes peuvent se tromper, qu'ils ont des biais idéologiques. Et là, dans le cas de la BBC, ils ont fait une erreur qui est une erreur grave. Bon, évidemment, ça ne justifie pas 10 milliards le demande de Trump, et qu'il n'obtiendra pas. Hein, on peut se rassurer là-dessus. Mais c'est une vraie erreur d'un point de vue déontologique qui a été commise en mettant bout à bout deux fragments de discours, ce qui donnait le sentiment que Trump avait directement demandé à ses partisans d'envahir le Capitole.
Et c'est vrai, Alexis Livrier, que c'est plus qu'une institution, la BBC, y compris à l'échelle européenne, d'ailleurs. J'ai envie de dire que presque la matrice des services publics. C'est en quelque sorte la BBC, en fait. Est-ce que vous diriez qu'elle peut être durablement touchée par le scandale maintenant, qu'on est là rentré dans un tunnel pour la BBC qui peut être un tunnel de très longue durée?
Oui, et là encore, je regrette qu'au lieu d'être dans une logique de défense, parce que c'est le modèle démocratique qu'il s'agit de défendre, on ait commencé par des évictions, des licenciements, une logique d'autocensure qu'on peut connaître en France aussi en ce moment face aux attaques de l'extrême droite. On intègre ça, on licencie, on se débarrasse de programmes d'investigation. Cette tendance existe partout, et je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Il faut miser sur l'investigation, il faut miser sur le pluralisme, il faut faire entendre une voix différente, qui est celle que précisément attendent les citoyens.
Est-ce qu'on se ressemble tous, d'un pays à l'autre, les services publics ou pas? Est-ce que vous diriez qu'il y a de vraies différences?
Il y a des différences qui sont historiques. Vous évoquiez le modèle anglais qui est plus ancien, et où il y a un attachement à l'indépendance des médias qui date de la Révolution glorieuse, hein, 1688, et qui s'est répercuté sur la culture de l'audiovisuel britannique, alors qu'en France, l'ORTF avait été directement placé sous la coupe du pouvoir. De Gaulle disait, d'après Perfit, la presse est contre moi, la télévision est à moi. C'est parce qu'il estimait que la presse lui était hostile qu'il a voulu concevoir un outil de communication avec l'ORTF. Et on a mis beaucoup, mais beaucoup de temps à s'émanciper de cette culture-là, donc qui est très différente de la culture britannique. Mais je crois que, dans le moment que nous vivons, s'il y a peut-être quelque chose de positif, c'est qu'on s'aperçoit de l'existence d'un modèle culturel commun en Europe. Nous avons tous des audiovisuels publics, ils sont tous la garantie d'un pluralisme, avec des défauts, des reproches qu'on peut leur faire, et il est attaqué partout, l'audiovisuel public. Quelque part, les attaques de l'extrême droite nous montrent qu'il y a une culture européenne.
Je vous demandais si on se ressemblait tous, je me demandais, parce que c'est des choses qui nous travaillent nous ici aussi, si par exemple l'humour avait fini par disparaître de certains de ces services publics. Est-ce qu'il existe encore des Charlene Vandenecker à la BBC, à la RAI, chez les Allemands ou ailleurs? Est-ce que ça aussi, ça se délite
de nous? Il y a moins dans les audiovisuels publics européens cette tradition, qui est une tradition récente pour l'humour politique.
Mais qui était aussi britannique quand même.
Oui, mais qui souffre moins qu'en France. Je pense que il y a des attaques. On voit que Trump, d'ailleurs, attaque des humoristes et a obtenu que certains d'entre eux soient provisoirement au moins mis de côté. En Italie, il y a ces attaques-là également. Mais ce qu'on touche principalement en Europe aujourd'hui, et même dans des pays qui sont dominés par des coalitions de centre-gauche, je pense à la Lituanie, on attaque l'investigation. L'investigation est attaquée partout. Et en France, complément d'enquête, cache investigation est attaquée par le président, par la ministre de la Culture, par l'extrême droite en permanence. La même chose s'opère, par exemple, en Lituanie. Et c'est une des raisons de la volonté actuelle de reprise en main de ces médias publics, alors que l'extrême droite n'est pas au pouvoir dans ces pays-là. Or, je le répète, si on veut que l'audiovisuel public fonctionne, qu'il suscite la confiance de ses citoyens, il faut lui donner les moyens d'être indépendant et de critiquer le pouvoir.
Est-ce que tout le monde a précisément un autorégulateur façon Arcom, avec peut-être d'ailleurs les mêmes travers que le nôtre, c'est-à-dire parfois peut-être obsolète face à la diversification des modes d'information, mais est-ce qu'il y a des Arcom dans chaque langue ou pas ?
Il n'y a pas les Arcom dans chaque pays, il y a des traditions différentes, mais il y a des outils de déontologie, de surveillance, et il y a parfois comme en Allemagne, l'équivalent de l'Arcom français, ils sont là aussi de plus en plus attaqués. Quand je disais que le modèle démocratique est attaqué, c'est-à-dire qu'on attaque la justice, on attaque l'université, on attaque le pouvoir intellectuel, et on attaque aussi le pouvoir d'autorité de régulation indépendante. Ça fonctionne très bien. On voit qu'en France, l'Arcom a quasiment renoncé à la régulation du pluralisme, alors que c'est sa mission première.
Vous parliez des États-Unis, Alexis Lévrier, tout à l'heure. On sait bien qu'aux États-Unis, la définition de la radio ou de la télé publique est très différente. Ce sont vraiment des gens qui donnent de l'argent à intervalles très réguliers. Est-ce qu'on se dit que c'est une manière de se sauver dans les services publics, réellement ? Est-ce que ça vous semble complètement contre-culture ou exportable ? Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, l'argent public, qui a de toute façon été supprimé par Trump ou quasiment, représente quasiment rien.
Ouais, c'est du mécénat, en fait.
Exactement.
C'est des dons privés. Et ça donne un audiovisuel public qui, de tradition, est beaucoup plus faible qu'en Europe. Donc, il ne faut surtout pas s'inspirer de ce modèle. Le modèle qui fonctionne, et c'est pour ça que j'ai été très inquiet, comme beaucoup d'universitaires, au moment de la suppression de la redevance en France, c'est un audiovisuel public financé par l'argent et directement par un impôt dédié à cela. C'est peut-être impopulaire, mais ça crée un lien direct entre les citoyens et l'audiovisuel public. Dès qu'on change de ce modèle-là, alors l'audiovisuel public est fragilisé. Et le pire qu'on puisse avoir, c'est les États-Unis. Et ça n'empêche pas les attaques, puisque là, actuellement, Trump multiplie les convocations, les humiliations, les coupes, vise purement et simplement la suppression de ces médias.
Une fois qu'on a restructuré ou démantelé, est-ce qu'on a des exemples. Est-ce qu'on peut remettre le dentifrice dans le tube, Alexis Lévrier ?
Il y a un exemple, c'est la Pologne, puisque...
Difficilement, quand même.
Oui, mais justement, c'est un exemple qui montre que c'est beaucoup plus facile de défaire ce modèle que de le recréer. C'est-à-dire que les attaques de l'extrême droite et la volonté de démanteler l'audiovisuel public, qui encore une fois ne passera pas par des privatisations mais par une reprise en main, c'est ce qui s'est passé en Pologne. On revient à un modèle plus démocratique désormais avec Tusk, sauf que lui-même, il multiplie les coupes budgétaires, il reproche à ses médias leur indépendance. Donc en fait, il porte en lui l'héritage de cette période illibérale qu'a vécu la Pologne.
Et au fond, on se dit en Pologne que la violence de la reprise en main par le PiS lorsque ça avait été le cas est à peu près équivalente ou presque à la violence avec laquelle on revient dans l'autre sens aussi avec Tusk. On a l'impression que il y a cette espèce de hiatus désormais entre les deux. C'est un bon exemple pour nous tous, non ou pas ?
Oui, c'est l'exemple que dès que le pouvoir s'en mêle trop directement, c'est pas une bonne chose. Et là, ils ont pris cette tradition-là, donc dans l'autre sens, on est revenu à des nominations directes, et c'est pas comme ça que l'audiovisuel public doit financer. Nous, on a eu beaucoup de mal en France à sortir de cette tradition gaullo-pompidolienne, mais qui s'est poursuivie avec Mitterrand, d'accorder aux médias publics leur indépendance. Ça les rend très impopulaires aux yeux du pouvoir, mais ça les rend populaires aux yeux de la population. Il y a encore 69% de la population en France, comme l'a raconté un sondage de la Tribune, qui sont attachés à l'audiovisuel public. Ça prouve que l'indépendance de l'audiovisuel public est la meilleure garantie de ce lien qui se crée avec la population.
C'est ce que nous partageons aussi d'ailleurs avec nos voisins européens. Alexis Lévrier, vous êtes historien des médias et maître de conférences à l'Université de Reims et je vous remercie beaucoup
de
votre passage chez nous. La suite, c'est vous, Louise Baudet, vous remettez le monde à l'endroit.
Avec un sujet qui anime les débats en ce moment à Bruxelles, comment de vieux accords commerciaux donnent aujourd'hui des armes aux oligarques russes pour récupérer leurs yachts et leurs avoirs gelés.
Et c'est juste après ça.
È colpa del respiro, fragile come me, se soffro tanto ma son vivo. colpa della bocca, stupida come me, e del tuo corpo che la tocca. Dell'istinto agile come me, che corre sempre dritto al punto, è colpa dell'amore ruvido come me.
Laszlo, des Simonets dans la playlist d'Inter avec Quando, le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Question Louise, pourquoi la Belgique a tellement peur de dégeler les actifs des oligarques russes ?
Eh ben, on les comprend en fait, hein, les Belges, quand on regarde de plus près les risques juridiques à saisir les avoirs russes, quels qu'ils soient. Des yachts au luxe ostentatoire et des villas sur la Côte d'Azur, jusqu'aux actifs gigantesques discrètement placés dans les coffres-forts des fonds d'investissement européens. La Russie et ses hommes d'affaires les plus en vue fourbissent leurs armes juridiques pour contrecarrer les saisies de leurs biens, sanctions prises contre eux par les États européens du fait de leur implication dans l'agression russe contre l'Ukraine.
Et ces armes juridiques, Louise, elles leur sont fournies par l'Europe elle-même.
Et oui, cela remonte à la fin des années 80, la chute du rideau de fer est proche, l'URSS bientôt démantelée, la Russie de moins en moins une menace et de plus en plus une opportunité, celle de faire des affaires, époque où les pays européens multiplient les traités d'investissement avec des pays tiers, dont l'Union soviétique, puis la Russie. Ces accords, ils visent à protéger les investisseurs en instaurant pour eux une justice parallèle, trois experts, des arbitres privés qui ne dépendent d'aucune juridiction nationale, et ce tribunal arbitral, on appelle ça comme ça, peut condamner un État à indemniser un investisseur encore plus fort. Il n'existe aucune possibilité pour cet État de faire appel.
Et cette justice parallèle s'avère très dangereuse quand il y a la Russie en face.
Eh oui, ce système extrajudiciaire est déjà très contesté sur le plan environnemental, par exemple, quand un gouvernement prend des mesures pro-climat qui impactent l'activité et les bénéfices d'un investisseur, celui-là peut réclamer et obtenir réparation. Eh bien, c'est de la même manière que les oligarques russes espèrent récupérer leur yacht, leur villa et leurs avoirs gelés. L'un d'eux, Mikhail Friedman, qui fait partie des 200 hommes les plus riches du monde, eh bien, il met en exergue un traité datant de 1989 entre le Luxembourg et la Russie pour récupérer ses actifs gelés, plus une bonne compensation financière. Il réclame au total 14,5 milliards d'euros, la moitié du budget annuel du Luxembourg. Et pour en arriver à ce qui intéresse les 27 réunis en ce moment à Bruxelles, eh bien sachez que vendredi dernier, la Banque Centrale de Russie a annoncé déposer plainte devant le tribunal arbitral de Moscou contre Euroclear, l'institution financière basée en Belgique, où se trouve l'essentiel des avoirs russes gelés en Europe. Cela même qu'il s'agit aujourd'hui de dégeler pour financer l'effort de guerre de l'Ukraine.
Et on comprend mieux pourquoi le Premier ministre belge craint d'avoir à payer les pots cassés.
Eh oui, les sommes en jeu sont énormes, hein, selon un groupe de think tank et d'ONG qui réclame la dénonciation de ces traités d'investissement. Les recours contre les États européens portent sur 62 milliards de dollars, ce qui est presque autant que l'aide militaire fournie à l'Ukraine depuis 2022. Et si les procédures s'annoncent longues et devraient aboutir bien au-delà de la fin de la guerre, eh bien, elles ne s'éteindront pas de sitôt. Vous connaissez les clauses zombies, Fabienne ?
Non, mais vous allez me le dire.
Ah, c'est très sympa. Ça permet aux investisseurs russes de lancer des procédures des années après l'extinction du traité. De quoi rendre frileux les Belges et les autres. Parce que si l'essentiel du magot est en Belgique, eh bien, les avoirs russes sont détenus ailleurs en Europe. Aucun montant n'est officiellement reconnu, mais selon le Financial Times, 18 milliards de ces fonds seraient aujourd'hui dans les coffres-forts de banques françaises.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde ce soir, c'est un jour dans les Highlands, au pied des relèves, des reliefs, des Cairngorms, la chaîne de montagnes écossaise, au pied des stations de ski. Mais oui, il y en a, il y a quelques kilomètres de la résidence royale d'été, le château de Balmoral. Ça y est, vous l'avez l'image, et bien regardez devant vous, vous êtes dans le village de Braemar, et vous le connaissez peut-être parce que c'est là que se tiennent les fameux jeux des Highlands, vous savez, les tirs à la corde et les lancers de troncs d'arbres. À Braemar, on y va aussi pour rentrer dans un haut lieu artistique, parce que son hôtel s'appelle le Firearm, ça y est, j'ai retrouvé ma ligne. On y recense dans cet hôtel des centaines d'œuvres d'artistes célébrissimes, des cubistes, des flamands, des photographes, des sculpteurs, des créateurs contemporains, des pièces plus insolites encore, je ne vous en dis pas plus, le reste, c'est Thomas Arms qui raconte.
Dans la brume hivernale, un imposant manoir victorien, tout en granit, dominé par des montagnes. Une terrasse avec créneau lui donne une allure de petit château fort. Nous sommes à l'hôtel Five Arms à Braemar, qui après 4 années de travaux a été entièrement restauré.
Je suis Martha, je vais vous faire la visite.
Les architectes, artistes et artisans locaux ont mis la main à la pâte. Et dans la réception, tout est en bois sombre, le personnel en kilt ou en tartan, ce tissu à décors quadrillés typiquement écossais. Un piano Steinway, des tableaux au mur et deux femmes sur un sofa sont en train de prendre leur thé sous l'un de ces tableaux et pas des moindres.
Nous avons une pièce unique et très spéciale ici. C'est Tête de femme, un tableau de Pablo Picasso qui représente sa maîtresse, Marie-Thérèse. Vous voyez qu'il utilise beaucoup de bleu, des tons tristes. Et elle a deux visages combinés qui, en quelque sorte, se reflètent. L'une des faces est sa beauté et l'autre dépeint sa vérité. Le tout dans un style cubiste assez typique. C'est une pièce unique car Picasso y a écrit un poème sur le côté gauche.
Je vais aller lire ce qui est écrit. Good, good, vivace, meurt le bleu pâle entre les griffes du vert amande à l'échelle du rose.
Dès lors, il a écrit 340 poèmes.
Les œuvres d'art sont présentes partout, dans les salons, les chambres, il faut avoir l'œil.
L'hôtel n'a pas toujours eu cette aura. La grandeur de l'hôtel dans cette esthétique victorienne a été inspirée par la reine Victoria, qui venait ici en vacances pendant de longues années. Elle a romantisé cet endroit et elle a attiré beaucoup de tourisme. C'était un endroit où se retrouvaient des écrivains, des artistes qui cherchaient l'inspiration dans les Highlands. À l'origine, l'hôtel était une auberge relais avec beaucoup de chambres. Un endroit très animé, mais qui s'est peu à peu délabré. Les nouveaux propriétaires, Iwan et Manuel Awers, qui sont des négociants en œuvres d'art renommées, ont mis beaucoup d'amour et de soin dans cet endroit. Et voici le résultat.
Les propriétaires suisses de l'hôtel ont été considérés en 2015 comme les personnalités les plus puissantes et influentes du monde de l'art, avec un empire culturel qui s'étend de New York, Los Angeles à Londres et Zurich.
Nous nous trouvons désormais dans le bar à cocktail d'Elsa Schiaparelli. Il remonte aux années 40, un temps où surréalisme et exploration se mêlaient. Elle était inspirée par Salvador Dali. Ici, on voit une photo de Man Ray. Et là, une pièce tissée très personnelle de Louise Bourgeois.
Wow. Les gens peuvent juste venir et regarder les œuvres d'art ou c'est réservé aux clients de l'hôtel ?
Nous encourageons vraiment tout le monde à venir et profiter des œuvres d'art, en particulier les habitants de la région, mais aussi les vacanciers. Même s'ils ne logent pas dans l'hôtel, ils sont les bienvenus pour admirer les œuvres. C'est unique à cet hôtel. La plupart de ces œuvres sont normalement vues dans des musées ou des galeries, mais ici, on peut profiter de l'art sans la contrainte et le cadre d'un musée. Donc c'est vraiment spécial, c'est un privilège d'y avoir accès comme ça.
Et comme dans un musée, de nouvelles œuvres sont exposées régulièrement.
Thomas Arms qui me glisse dans l'oreille au passage qu'il y a aussi 600 bouteilles de whisky dont la plus vieille date de 1833. Voilà, je la pose là. Merci Thomas, à une prochaine fois. La suite ce soir, ça se passe d'abord avec vous, Guillaume Audat, et sous les radars.
Sous les radars et sous le soleil de Platon. La Grèce sort de sa caverne financière, éponge sa dette et revient en force dans la zone euro.
Et la tech la première, Stéphane Jourdain.
On parle de lunettes connectées et de reconnaissance faciale dans le métro parisien.
Allez, restez avec nous les amis, le temps d'écouter la géniale Dolly Parton avec Jolene. Ça date évidemment de 73. 63e dans le classement des plus grandes chansons de tous les temps, c'est ce que dit Rolling Stone Magazine. Eh ben c'est mérité.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Et Jolene, Guillaume Audat est là, il sort tout juste de sous les radars. Guillaume, c'était début octobre, on s'en souvient très bien, la jeunesse marocaine avait fait souffler un vent de révolte sur son pays. Après de nombreuses arrestations et 2 mois et demi plus tard, Rabat est accusé de brutalité contre les détenus.
Et même d'abus horribles commis par les forces de l'ordre. Je cite un rapport publié par l'Association marocaine des droits humains. En marge des protestations, des centaines de jeunes avaient été arrêtés arbitrairement. 3 morts, des centaines de blessés et 2400 procédures judiciaires à la clé. Parmi les détenus, certains ont été harcelés, battus, parfois torturés. On a retrouvé des jeunes les dents cassées volontairement, toujours selon cette ONG fin septembre dernier. C'est toute une jeunesse, la Gen Z 212, comme l'indicatif marocain, qui avait pris les rues de Tanger, Fès, Casablanca. Elle réclamait, cette jeunesse, une réforme profonde du système d'éducation et de santé, mais surtout, surtout de ne pas être la grande oubliée de la Coupe du Monde de football que le Royaume va co-organiser en 2030. Ce week-end, le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations, mais une chose est sûre, au Maroc, le ballon rond ne cachera plus très longtemps les stigmates de la répression.
En 2025, Greek output has somewhat recovered after one of the largest peacetime recessions in modern history.
15 ans après la quasi-banqueroute de 2010, la Grèce est de retour en grâce. Athènes éponge sa dette à pleine vitesse et joue désormais aux bons élèves de la zone euro.
Évidemment, depuis les fenêtres de Bercy, il y a de quoi regarder tout cela avec beaucoup d'envie. Rendez-vous compte, cette semaine, la Banque centrale là-bas a remboursé 5,3 milliards d'euros par anticipation à ses créanciers, de quoi économiser 1,5 milliard d'intérêts, ce n'est pas négligeable. Tout indique que le pays pourrait retrouver un niveau de dette égal à 120% du PIB à l'horizon 2029. Alors ça reste important, mais ce qui compte, c'est la trajectoire. En 2020, il y a 5 ans à peine, cette même dette publique avait frôlé les 207% du PIB. Alors, on peut le dire, Athènes revient des enfers où dans la mythologie, vous le savez, coule le Styx, ce fleuve qui sépare le monde des vivants et celui des morts. Le miracle s'est produit, mais au prix d'une diète sans précédent, de réformes économiques profondes, d'une crise sociale violente. J'ai à l'esprit l'image de ce retraité qui, un soir de désespoir, s'était immolé par le feu sur la place du Parlement. Aujourd'hui, la Grèce est l'un des rares pays de la zone euro à connaître un excédent budgétaire, mais elle reste une nation fragile et l'une des plus pauvres de l'Union européenne.
Allez, direction le pôle Nord, ça n'a rien à voir pour terminer ce voyage ce soir. Et vous nous parlez cette fois d'un ours polaire, encore ?
Oui, parce que j'aime les ours polaires.
Vous êtes un peu obsédé par les ours polaires.
Ce sont des animaux d'une immense beauté. Paré d'une fourrure blanche à faire pâlir la Reine des Neiges. C'est vous, la Reine des Neiges. Je vous ai raconté cette semaine que cette espèce disparaissait malheureusement à grande vitesse à cause du réchauffement. Signe que le climat bascule plus vite que la capacité du vivant à s'adapter. Droit de suite, hier, des scientifiques ont découvert qu'en Arctique, une ours polaire, une maman qu'il suivait depuis un moment, avait adopté sur sa route un tout petit ourson. C'est extrêmement rare, seulement 13 cas enregistrés en 45 ans d'observation. Alors, une fois encore, grâce aux ours polaires, un enseignement, ils disparaissent parce que la banquise fond et que leur nourriture se raréfie. Et pourtant, ils continuent à la partager, cette nourriture, ce qui, mécaniquement, met en danger leur chance de survie. Morale de l'histoire, le don, et même le don de soi, est un carburant de la préservation.
Mais qu'est-ce que vous êtes chabadeur, Guillaume Audin. Merci
tellement
beaucoup.
Soir, hein,
allez, le jeudi, c'est la tech, la première. La chronique avec de l'IA fabriquée sans IA.
France Inter, le 18-20.
Alors imaginez, vous prenez le métro, en face de vous quelqu'un a des lunettes connectées et grâce à un logiciel, il va retrouver votre nom, une partie de votre passé. Stéphane, ceci n'est pas une dystopie, c'est notre vie désormais. Cette semaine, votre chronique est consacrée à la reconnaissance faciale et surtout ce qu'on peut faire en plein Paris.
Et oui, c'est une vidéo d'une youtubeuse française, Amy Plante, qui va donner des sueurs froides à ceux qui aiment se balader incognito dans Paris. J'ai codé un algorithme qui reconnaît des gens dans le métro, c'est le titre de la vidéo. 43 minutes d'une démonstration implacable.
Ça, c'est moi. Et ça, c'est les lunettes connectées Meta Ray-Ban. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai utilisé cette paire de lunettes pour créer un système automatisé qui me permet de reconnaître les inconnus sur qui j'ai simplement posé mon regard.
Alors, au cœur de son dispositif, il y a donc des lunettes connectées Ray-Ban.
Oui, lunettes disponibles dans le commerce, 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis 2 ans.
En apparence, c'est une paire de lunettes assez classique. La seule différence, c'est que tu peux les connecter à ton téléphone. En gros, elles ont une caméra dessus qui permet de prendre des photos et des vidéos que tu peux ensuite récupérer sur le tel. Clairement, l'outil parfait pour prendre en vidéo les gens en face de nous.
Le défi, ça va être de mettre un nom sur les visages pris en photo grâce à ces lunettes.
Donc ça y est, on arrivait à avoir les photos prises avec les lunettes. Maintenant, il était temps de passer au nerf de la guerre, retrouver qui sont les gens sur ces photos.
Pour cela, la youtubeuse va faire appel à des moteurs de recherche de visages en ligne. C'est là que votre cauchemar commence, Fabienne.
Voilà, j'ai testé chacun de ces moteurs de recherche de visages. Et voilà mon top 3 de ces outils qui sont complètement flippants.
Complètement flippant, ces moteurs fonctionnent sur un principe simple. Vous chargez la photo d'un visage et vous retrouvez toutes les photos en ligne qui correspondent à ce visage. Le plus connu, c'est PimEyes. Il collecte tout ce qui traîne sur les sites web, forums ou blogs, mais pas sur les réseaux sociaux qui le bloquent. J'ai essayé. pour moi-même, j'ai obtenu 105 résultats, 105 photos et vidéos, et pas mal dont j'avais complètement oublié l'existence. Il y a aussi FaceCheck ID, lui récupère toutes les photos publiées sur les réseaux sociaux. C'est très efficace pour découvrir des sosies qui vivent à l'autre bout du monde.
Okay.
Et enfin, Search for Faces, Citrus, qui se targue de rassembler plus d'un milliard de visages, mais pas le mien.
Ah.
Grâce à ces moteurs de recherche, notre youtubeuse va pouvoir remonter à un nom, et grâce à ChatGPT, aux éléments biographiques liés à ce nom.
Donc il n'y a plus qu'à tester, Stéphane, le système artisanal dans le métro.
Rendez-vous, station Saint-Lazare.
Il y a trois personnes qui rentrent dans le métro, je prends une photo, et là... j'ai clairement le mec en face de moi que je ne connais absolument pas sur mon téléphone. Il y a des photos de lui et là je suis absolument sûre que c'est lui. Il y a son nom.
Il y a son nom et la fiche concoctée par ChatGPT précise que l'homme en costume noir travaille dans l'éducation. Et à ce moment-là, le type est justement en train de parler d'éducation.
Les gars, j'étais en train de trembler intérieurement. Je me dis, allez, je vais aller le voir. Je lui ai montré son profil sur l'application. Et c'était bien lui. Il travaille bien dans l'éducation. On avait carrément l'endroit où il taffe. Et c'était le bon nom.
C'était bien lui. Le dispositif fonctionne. L'expérience se poursuit avec d'autres quidam.
Je reconnais une femme en face de moi. J'ai pas son nom, prénom, mais je sais qu'elle pratique du théâtre et je sais où elle le pratique. Quelques temps après, je reconnais une autre femme qui est en face de moi. On sait qu'elle fait du running et on a le nom de son groupe de running. Ensuite, il y a eu ce monsieur, ça disait que c'était un ancien ministre malaisien. Sur le coup, je me suis dit que c'était impossible, mais après coup, il ressemblait tellement qu'à un moment, j'y ai vraiment cru que c'était lui.
Faites gaffe, si vous êtes un ancien ministre malaisien incognito dans le métro.
On va les appeler. Démonstration implacable donc Stéphane, mais quelle leçon on en tire alors? Quelle leçon elle en tire cette youtubeuse?
On l'a appelée, elle espère que sa vidéo va réveiller ses copains un peu trop naïfs.
Moi souvent, même dans mes amis, etc., j'entends souvent, bah en vrai, moi je m'en fous si on me reconnaît, genre j'ai rien à cacher. Et à chaque fois, bah je leur dis... Enfin, si tu sais qu'il y a des caméras, par exemple, publiques qui ont ce type de logiciel qui tourne, qui te filment et qui savent qui t'es, tu as peut-être moins osé prendre des risques, aller manifester pour une cause, etc. Et c'est vrai qu'on perd en liberté, en fait. Et je pense que ça nous concerne tous. Et ça, d'autant plus dans un contexte géopolitique plus autoritaire, par exemple. Aujourd'hui, il existe des logiciels qui sont utilisés notamment par des gouvernements qui ont vraiment des bases de données beaucoup plus fournies. Je pense qu'ils pourraient reconnaître quasiment tout le monde.
Son alerte principale, c'est « Attention, votre visage va vous suivre toute votre vie ».
J'ai eu des gens dont j'ai retrouvé des images qui dataient d'il y a plus de 10 ans. Notamment un monsieur où il y avait une photo de lui en boîte de nuit quand il était vraiment jeune. Et on voyait que c'était le même visage, on reconnaissait, mais avec une sacrée différence d'âge. Et c'est vrai que les données biométriques, bah, c'est très difficile de les changer parce qu'un visage, ça vieillit, mais les traits restent quand même les mêmes. Et donc, c'est un peu irréversible, les données biométriques.
Alors, c'est un peu irréversible, Stéphane. Qu'est-ce qu'elle en dit, la CNIL?
La même chose. Attention aux données biométriques. Ce n'est pas comme un mot de passe qu'on peut changer facilement. Et puis, attention, le recours à des moteurs de recherche de visage est interdit. Marie Dubois, du service économie numérique de la CNIL.
Cet usage-là, qui est typiquement utilisé dans cette vidéo, est aujourd'hui interdit par le règlement sur l'intelligence artificielle. Puisqu'en fait, c'est des systèmes d'intelligence artificielle donc voilà, qui collectent en ligne toutes les images qu'ils peuvent trouver et qui constituent ces bases de données qui ensuite permettent de faire de la reconnaissance faciale en chargeant une autre image d'une personne et en comparant cette image aux images contenues dans la base de données.
Ça existe, mais c'est interdit. Dernière chose, si vous êtes dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui vous filme avec des lunettes connectées, voici les conseils de la CNIL.
Eh ben, on peut tout simplement lui conseiller de demander à la personne ce qu'elle fait de ses lunettes, pourquoi, quelle est l'utilisation. Et ensuite, on peut tout à fait dire, vous êtes en train de traiter mes données personnelles en filmant mon visage, je m'y oppose. Après, évidemment, il y a des exceptions qui peuvent être mobilisées. Si la personne dit, je filme parce que c'est pour mon usage personnel, bon, voilà, ça se discute. Si c'est une exception aussi journalistique, ça peut se discuter aussi, donc voilà.
Vous pouvez aussi mettre un bonnet et des lunettes de soleil.
So sexy. Merci beaucoup, Stéphane Jourdain. À jeudi prochain.